Et bienvenue à tous sur les ondes de Médien. Merci à vous de nous rejoindre en direct. Nous sommes ensemble également sur Médien.com et notre application Médien Radio. Alors comme je le disais en tout début d'émission, on parle de retard de langage de ces enfants qui commencent à parler vers l'âge de 2 ans. Alors certains enfants acquièrent donc progressivement leur vocabulaire, d'autres mettent un petit peu plus de temps. Alors les raisons peuvent en être multiples. À quel moment justement devrait-on s'en inquiéter avec nous pour en parler ce matin sur les ondes de Médien? Najwa Yabi, vous êtes orthophoniste et vous êtes avec nous en direct. Bonjour.
Bonjour, merci.
Merci de répondre présente à notre invitation sur Médien.
Bonjour, merci également.
Alors, je parlais de retard de langage, donc à partir de l'âge de 2 ans, comme je le disais, donc corrigez-moi si je me trompe, certains enfants donc acquièrent progressivement ce vocabulaire dont on parle. Alors d'autres peuvent avoir besoin de plus de temps. Quand peut-on justement parler de retard de langage?
Je vais d'abord commencer par une explication de ce que c'est que d'abord le retard de langage.
Oui.
En fait, c'est un retard qui se caractérise par une expression orale qui est diminuée.
D'accord.
Par rapport à la norme attendue pour l'âge de l'enfant. Quand par exemple un petit enfant de 3 ans qui garde toujours un langage bébé de 2 ans ou 1 an et demi présente un retard de langage. Donc, on peut aussi l'expliquer par la présence d'un décalage entre le développement des compétences langagières et l'âge de l'enfant. Alors, quand on s'en inquiète, c'est quand on constate la présence de certains signes chez nos petits.
Oui.
Mais on sait tous qu'il ne faut jamais comparer les tout petits enfants.
Exactement, c'est ça. Oui, faut le rappeler voilà. Surtout à ses parents. Alors pourquoi mon enfant a tardé? Il a 2 ans et celui de ma sœur ou son copain parle déjà. Il ne faut jamais faire ça. C'est bien cela.
Voilà, justement, parce qu'il faut se souvenir toujours que la courbe de développement dite normale peut varier d'un enfant à un autre. Donc, mais cela n'empêche pas les parents d'être toujours attentifs à l'écoute de certains signes qui faisaient en sorte que leur petit aurait besoin d'une aide professionnelle. Alors, comme par exemple, si on peut parler des enfants de moins d'un an, on
oui.
peut constater chez eux un contact visuel fuyant. L'absence de babillage, des difficultés de succion, de déglutition, le manque de réaction au bruit et surtout à la voix humaine, le manque de signes de compréhension. Alors chez ces enfants-là, c'est surtout des difficultés au niveau du langage non verbal.
D'accord.
Alors au-delà de 1 an, c'est-à-dire de 1 à 2 ans, on peut remarquer chez l'enfant la présence d'un jargon, c'est-à-dire c'est un enfant qui déforme ses mots,
oui.
il utilise un langage incompréhensible. Généralement, c'est des enfants qui sont compris rien que uniquement par leur maman.
Oui.
Pas,
justement,
tout le monde.
Oui.
Voilà, ils posent des difficultés pour comprendre leur message. Et il y a aussi le manque d'imitation verbale chez ces enfants, c'est-à-dire ces enfants qui n'aiment pas répéter, qui ne s'intéressent pas au dialogue ou à l'interlocuteur. Et en fait, j'insiste sur un point qui est l'enfant qui ne répond pas à l'appel de son prénom.
D'accord.
Et l'enfant qui ne pointe pas du doigt. Alors quand mon fils ne répond pas à son appel, il faut que je m'inquiète et il faut consulter immédiatement. Mais c'est pas une fois, c'est plusieurs fois, après plusieurs tentatives, bien évidemment.
Alors là, on est toujours avant les 12 mois, c'est ça?
Non, là, c'est au-delà de 2 ans. Plutôt,
parfait.
C'est de 1 à 2 ans.
D'accord, de 1 à 2 ans, d'accord.
Voilà, de 1 à 2 ans, surtout. Et même au-delà de 2 ans, parce qu'il y a des parents qui consultent tardivement, vous voyez, donc ils ne constatent pas cela bien avant. Alors, si mon fils ne répond pas à l'appel de son prénom, alors il faut qu'on consulte, d'accord?
Alors, c'est un signe, normalement, qui devrait alerter ses parents.
Effectivement. Et alors aussi le pointage du doigt est important.
D'accord.
Parce qu'il fait partie du langage non verbal.
Mmh.
Et alors généralement au-delà de 2 ans, c'est des enfants qui sont un peu bavards, en retrait dans la communication. C'est des enfants qui éprouvent beaucoup de difficultés à formuler des phrases complètes, à comprendre les consignes, moyennement complexes. Et aussi ils ont des difficultés à articuler les sons correctement, et on constate que leur stock lexical ne s'enrichit pas progressivement et de manière continue. On peut aussi constater d'autres symptômes qui peuvent accompagner le retard. C'est quand, par exemple, les signes d'immaturité affective. Mmh. Quand, par exemple, les petits enfants qui sucent le pouce, le bavage. Donc, il y a aussi des difficultés relationnelles. Quand, par exemple, la colère, un enfant qui est anxieux, tout le temps fâché, qui pique des crises. Il y a aussi la présence de stéréotypies. Ça veut dire que c'est des mouvements répétitifs, des gestes répétitifs au niveau des membres. Et aussi l'écolalie, c'est-à-dire les répétitions de phrases. Quand, par exemple, si je dis à un enfant « Viens jouer avec moi », il a tendance à répéter automatiquement et directement après moi « Viens jouer avec moi », sans exécuter le message et sans le comprendre. Donc d'accord. Voilà, ce sont des signes surtout, en généralement les parents, ils ressentent la différence. Oui. Alors mon fils n'arrive pas, il a du mal à faire, des fois la comparaison est importante parce que ça aide, mais pas tout le temps. D'accord. Oui. Donc voici les signes qui peuvent inquiéter les parents et la consultation s'impose.
La consultation s'impose. Alors, quelles peuvent justement en être les raisons? Vous aviez commencé à parler des raisons tout à l'heure. Quelles peuvent en être ces raisons? Est-ce que c'est du cas par cas?
En fait, il existe plusieurs raisons, multiples raisons. Mais les principales raisons qu'on constate, c'est-à-dire généralement quand on reçoit un enfant qui présente un retard de langage, oui, et chez qui on constate des difficultés d'audition, on lui demande automatiquement un examen PEA, c'est-à-dire potentiel évoqué auditif, pour évaluer son audition. D'accord. Parce que, vous savez, la présence d'une otite à cet âge-là, un âge précoce, peut engendrer ce genre de problème.
D'accord.
Donc, il faut toujours vérifier l'audition, ça c'est la première des choses. Deuxièmement, il y a des causes neurologiques, comme par exemple l'IMC, l'infirmité motrice cérébrale, ça c'est les souffrances néonatales et tout ça. Il y a aussi le syndrome génétique qui entrave le développement normal et global de l'enfant de façon générale. J'insiste aussi sur le manque de stimulation, qui retarde le langage chez l'enfant. C'est des enfants qui sont malheureusement exposés aux écrans de manière continue et depuis le bas âge. Et ça n'aide pas, c'est-à-dire ça n'aide pas l'enfant à s'entraîner à parler. Et c'est aussi l'entourage qui parle peu, ou utilise un langage toujours bébé, titi, mimi, comme chez nous.
Alors il faudrait lui parler normalement, c'est cela.
Normalement. Parce que pour l'enfant, c'est une autre langue, titi, mimi. Après, je vais lui dire, viens manger. Alors ça, c'est différent. Donc,
c'est ça.
C'est une nouvelle langue. Donc, parce que ça ne va jamais encourager l'enfant à parler correctement. Du coup, il faut parler de manière juste. Il y a aussi le trouble neurodéveloppemental. D'accord. Alors, en fait, ce sont des altérations cérébrales qui se mettent en place bien avant la naissance. Et retentissent négativement sur la qualité de la motricité, la qualité du langage, la qualité relationnelle et sur le comportement. Et c'est ce qu'on appelle l'autisme, des fois. Alors, pas tous les enfants sont atteints d'autisme quand ils présentent un retard de langage, mais c'est généralement, il faut s'inquiéter, il faut consulter et pour être rassuré. Donc voilà, ce sont les principales raisons généralement qu'on trouve chez les enfants qui présentent un retard de langage.
D'accord.
Et juste, il reste toujours inconnu. Oui.
Alors pour les parents qui nous écoutent, est-ce que il faut être attentif bien évidemment à ces signes, mais est-ce que plutôt le trouble de langage sera détecté, est-ce qu'il est plus facile donc de corriger si cela est détecté assez tôt donc?
Bien évidemment, et on encourage les parents à consulter tôt et ne jamais demander avis à quelqu'un d'autre.
Exactement.
À part un professionnel de santé.
Oui.
Parce que malheureusement, on reçoit des fois des enfants tardivement et les parents disent « mais il ressemble à un membre de la famille, la grand-mère a dit « c'est pas grave, ça va venir ». Vous savez, des fois, le langage, c'est le dernier souci des parents. Et ils disent que ça va venir, ça veut dire que c'est pas aussi inquiétant si c'est pas une maladie organique, vous voyez. Donc si c'est pas dès la naissance, on voit pas un handicap visuel comme ça directement chez l'enfant, c'est les parents généralement qui s'inquiètent pas rapidement. Mais il faut toujours, il faut toujours surveiller l'enfant et son développement. Et j'encourage aussi les parents à inscrire leurs petits dans des jardins d'enfants parce que ça aide, ça stimule énormément. enfant. Voilà.
Quel serait l'âge idéalement?
Alors, vous savez, quand...
Est-ce qu'il y a un âge idéal, finalement?
Pour parler, c'est ça?
Pour inscrire, justement, et les enfants et voilà, aider son enfant dans son apprentissage du langage en faisant, justement, en sautant ce pas qui est difficile parfois pour les parents.
Ouais, vous savez, la stimulation commence dès la naissance. Donc, on ne peut pas dire à tous les parents que c'est l'âge idéal d'inscrire les enfants tout petits, mais dès que possible. D'accord? Dès que possible, on met notre petit dans un jardin d'enfants pour qu'il soit stimulé. Parce que le langage ne se développe pas, c'est-à-dire à un âge précis, mais c'est tout un travail qui se fait bien avant,
oui.
D'accord ? Et qui commence dès la naissance avec une stimulation et tout. Mais surtout sur quoi j'insiste personnellement, c'est sur les enfants qui sont de moins d'un an et qui ne communiquent pas par le langage non verbal. C'est-à-dire ils n'ont pas de compétences langagières non verbales et beaucoup de difficultés à transmettre le message avec des gestes et tout. Il n'y a pas de regard. C'est un enfant qui aime jouer tout seul. C'est un enfant qui fait des gestes répétitifs, des écolalies. C'est un enfant qui fixe pas le regard. À ce moment-là, il faut l'inscrire sur place, dans une crèche ou un jardin d'enfants et chercher la cause, poser un diagnostic et commencer une stimulation. Et
justement, en parlant de diagnostic, Najwa Yabi, je rappelle que vous êtes orthophoniste. En parlant de ce diagnostic, alors vous recevez des parents. Quelles sont les plus grosses craintes, les craintes qui reviennent assez fréquemment, les craintes des parents?
En fait, c'est des parents qui s'inquiètent toujours pour l'avenir. Est-ce que mon fils pourra un jour? Est-ce qu'il pourra suivre sa scolarité de façon normale, comme les autres? Et voilà, justement, ce sont les deux questions que posent généralement les parents. Et effectivement, tout dépend de chaque enfant et du degré, on va pas dire degré d'atteinte, mais le degré de retard.
D'accord.
Parce que ça peut différer d'un enfant à un autre. Quand c'est un grand retard, automatiquement, ça va retentir même sur la scolarité si c'est pas une prise en charge précoce. Et si c'est un léger retard et qu'il est isolé, c'est-à-dire pas associé à un trouble, à une pathologie organique, à ce moment-là, la stimulation orthophonique donnera de bons résultats bien avant l'arrivée à l'école. Si c'est une prise en charge qui commence, j'insiste toujours.
Parfait.
Donc voilà, c'est surtout pour ça que les parents s'inquiètent. C'est l'avenir qui les inquiète surtout.
C'est l'avenir des parents. Et justement, vos conseils avant de finir, c'est très très intéressant ce que vous dites. Alors vos conseils à tous ces parents qui nous écoutent, est-ce que vous avez des petites astuces comme ça à leur proposer afin d'aider un maximum son enfant dans son apprentissage de langage?
Oui, bien évidemment, il y a moyen d'aider ses enfants dans la vie de tous les jours. Par exemple, un enfant qui déforme ses mots, il ne faut pas le critiquer, lui dire « tu ne sais pas parler, ce n'est pas comme ça, arrête, je t'ai corrigé plein de fois, mille fois,
oui.
Et toi tu arrives toujours pas à bien articuler ou bien à bien dire le mot ». Il faut toujours être le bon exemple, le bon modèle, et en reformulant le mot à sa place. Par exemple, pour un enfant qui dit chocolat, c'est aussi simple, on dit « Ah, tu veux dire chocolat ?» et on insiste sur le son qui a été déformé par l'enfant. On évite aussi d'utiliser le langage bébé, qu'on vient de
c'est
dire.
Ça, oui. Est-ce que c'est important de se mettre à sa hauteur aussi? On entend beaucoup parler de cela. Se mettre à la hauteur de l'enfant pour lui parler?
Oui, il faut toujours capter l'attention de l'enfant pour un meilleur échange verbal. Il faut toujours, comme je viens de dire, le langage non verbal est important. C'est-à-dire l'attention visuelle de l'enfant, c'est parmi les moyens de communication, c'est-à-dire c'est nécessaire. C'est-à-dire un enfant qui ne vous regarde pas dans les yeux et vous parlez alors que lui est en train de jouer, il n'y a pas une communication qui passe.
D'accord.
Alors ça passe pas et puis on ne pourra pas capter son attention. Donc aussi les écrans avant l'âge de 3 ans.
D'accord.
Et,
ça c'est très très important aussi.
Oui. Pas d'écran, c'est-à-dire les écrans, tout type d'écran. Pas uniquement la télé, mais tout type d'écran.
D'accord.
Tout ce qui est tablette, téléphone. Parce que quand je reçois les parents, je leur demande ça. Est-ce que votre enfant s'expose à l'écran? Ils me disent, ah oui, non, la télé, non, mais le téléphone, oui. C'est la même chose.
L'écran,
avant 2-3 ans, c'est vraiment interdit. Et aussi, l'enfant a besoin d'être écouté et d'écouter aussi un message verbal dit de manière claire, lentement, bien articulé. C'est-à-dire, il ne faut pas parler aussi rapidement, parce qu'il y a des parents qui ont un débit rapide. C'est-à-dire, ils parlent rapidement, ils lancent un message où il y a plusieurs informations à la fois, alors que les tout petits enfants ont besoin d'un message simple, clair et bien formulé. Et j'insiste aussi sur le contact avec les autres enfants.
Oui.
Et il faut toujours varier l'alimentation pour les tout petits, parce que ça aide énormément aussi à voilà, tout, l'essence. Il faut travailler sur l'essence.
D'accord.
Voyez en fait, si les parents n'arrivent pas à, c'est-à-dire le petit n'arrive pas à surmonter ses difficultés avec une bonne stimulation de manière ludique, naturelle à la maison, à ce moment-là, il faut demander de l'aide à un professionnel pour, voilà, parce que quand on reçoit l'enfant, on commence par un examen, un bilan orthophonique avec des examens complémentaires.
Ça se fait automatiquement. Ça se fait automatiquement pour tous les enfants qui arrivent dans votre cabinet.
Oui, généralement pour tous les enfants. Oui, on ne peut pas travailler avec un enfant sans passer par un bilan orthophonique.
Parfait.
Que le bilan, voilà, justement, parce que le bilan, c'est un moyen pour comprendre l'enfant et pour, voilà, justement, tracer le plan de travail, sur quoi on va travailler, qu'est-ce qu'on va stimuler, qu'est-ce qu'on va traiter comme trouble, quelles sont les fonctions cognitives qui se développent en retard. Et voilà, c'est à travers ce bilan qu'on va aussi conseiller les parents, leur donner, parce que chaque enfant est différent d'un autre.
Exactement.
C'est pas le même travail qui se fait pour tout le monde.
D'accord. Parfait. Najwa Yabi, vous êtes orthophoniste. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct sur les ondes médias. Et je vous dis à très bientôt.
Je vous remercie. Merci. Bonne journée.